France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Gaëlle Loriot-Prévost, architecte d'intérieur, designer, scénariste, peut-être architecte un petit peu sur les bords, et qui aime beaucoup les objets industriels.
Premier épisode, 6 rue Bouvier, Paris 11e. Bonjour Gaëlle Loriot-Prévost.
Bonjour Caroline Brouet.
Alors vous avez dit beaucoup de choses, alors c'est difficile de répéter, mais il y a un mot qui m'a interloqué, c'est le mot scénariste. J'aurais pensé scénographe, architecte d'intérieur, designer, directrice artistique de l'agence d'architecture fondée par Dominique Perrault, dont vous êtes l'associée, mais scénariste.
Ma langue peut-être a fourché un petit peu, voilà, mais quand on travaille sur tous ces projets d'architecture, sur ces intérieurs d'architecture, même ces mobiliers, il y a une part de mise en scène, de scénario, d'installation qui est extrêmement importante pour rendre l'ensemble vivant, parce qu'on travaille pour les autres, pour rendre l'architecture qui soit ouverte, capable d'accueil et qui puisse permettre à tout le monde de vivre le mieux possible et le plus paisiblement possible dans l'ensemble de ces architectures.
Et on va voir au cours de ces 5 entretiens ensemble à quel point vous nous racontez des histoires. Donc le mot scénariste était parfaitement choisi. Gaëlle Loriot-Prévost, vous êtes peu connue du grand public et pourtant, pour ne prendre qu'un seul exemple de vos créations, des générations d'étudiants se sont assis sur vos chaises iconiques en bois rectangulaire et courbe, et des générations ont lu à la lumière de vos lampes de table à la Bibliothèque nationale de France, cite François Mitterrand. C'est vous qui avez transformé un matériau industriel, la maille métallique, en objet architectural avec votre complice depuis 35 ans maintenant, l'architecte Dominique Perrault, dont vous partagez les bureaux et la maison. Les acteurs disent à la vie comme à la scène. Avec lui, vous avez réalisé une œuvre considérable, parce que outre la Bibliothèque nationale de France, inaugurée en 1995, on pourrait citer le Vélodrome et la piscine olympique de Berlin, le Centre olympique de tennis de Madrid, la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg, le Grand Théâtre de Cordeliers à Albi, la réhabilitation de l'Hippodrome de Longchamp, le renouveau de la Grande Poste du Louvre à Paris, ou encore la gare de Villejuif Gustave Roussy dans le cadre du Grand Paris Express. Mais ça, c'est pour les objets architecturaux d'ampleur dont vous pensez les intérieurs. Car c'est l'intérieur de l'architecture qui vous intéresse. Les jeux de lumière, le travail du mobilier, les textures, les objets. Un travail entre direction artistique, design et architecture intérieure. Bref, nous n'aurons pas assez de 5 épisodes de 30 minutes pour faire le tour de votre vie et de votre œuvre. Alors, pour entrer en matière, puisque vous aimez les matières, et une fois n'est pas coutume, je me suis dit que le mieux pour entrer dans votre univers, Gaëlle Loriot-Prévost, c'était de commencer par l'endroit où vous nous recevez, parce que c'est un endroit qui n'est pas anodin. On pourrait même dire que c'est un endroit extraordinaire quand on passe le porche de ce 6 rue Bouvier à Paris, dans le 11e arrondissement. On tombe sur 3500 m² de bureaux. Et je demande toujours à mes invités de choisir un lieu qui leur est familier. Vous nous avez amené ici. Pourquoi ? C'est un lieu de travail ou c'est votre deuxième maison ?
C'est un lieu de travail. C'est un lieu aussi de partage, d'accueil, parce que c'est un lieu qui est grand, comme vous l'avez dit. C'est une petite usine qu'on a réhabilitée, transformée pour devenir un atelier d'architecture. Cet atelier d'architecture, il a été pensé et travaillé un peu comme un case study, si vous voulez. Et donc, quand on arrive ici, on est dans notre monde d'architecture intérieure, d'architecture. Ce ne sont que des matériaux avec lesquels on travaille pour nous, mais pour les autres aussi. Et donc, il est chargé d'histoire, chargé d'émotions, chargé de ce qu'on aime. Et ça nous permet de nous connaître aussi. Quand on arrive ici, il y a une connaissance du travail qui sera fait ensemble. Parce qu'un travail, que ça soit d'architecture, d'architecture intérieure, ça se fait à plusieurs mains. Ça se fait avec la personne pour laquelle vous travaillez, ou la personne, ou l'entité publique, ou l'entité privée. C'est extrêmement important. C'est une manière de se connaître. C'est un lieu aussi qui permet d'accueillir des partenaires, d'accueillir nos clients. Il y a des bureaux éphémères qui viennent de temps en temps s'installer. On accueille aussi des événements de mode. Quand on a inauguré cette agence en 2007, on a accueilli la collection d'art minimal de Jean-Philippe et Françoise Bilaran, Et ça, de pouvoir avoir un grand lieu, un espace qui permet une certaine générosité, c'est formidable pour un architecte, parce que l'architecte a horreur du vide. Donc tout de suite, il est habité et ça permet de faire beaucoup de choses qui soient différentes. On teste des matériaux, on fait des grands prototypes. C'est un lieu, vraiment un lieu de travail, quoi, avec qu'on peut façonner à notre propre main. Quand on se baladera, vous verrez que tout est sur roulette. Donc aussi, on bouge des éléments très facilement. Les bureaux peuvent évoluer, même si on ne le fait pas obligatoirement au quotidien, parce que, évidemment, c'est quand même toujours assez lourd. J'allais dire, c'est peut-être les câbles et toute l'informatique qui est plus lourd que le bureau lui-même aujourd'hui. Mais ça permet beaucoup de choses et on le fait, nous, à l'agence, même en 2025. Ici, ça a été le décor choisi par Stéphane Desmoustiers pour son film L'inconnu de la Grande Arche, pour être le bureau de l'agence Paul Andreu. Donc ça montre que c'est un lieu qui est capable de multiples transformations et qui a cette générosité, et c'est assez extrêmement important pour le travail et même pour l'ensemble des équipes. C'est aussi d'avoir un lieu serein en même temps pour travailler, c'est essentiel.
Vous parlez des équipes, Gaëlle Loriot-Prévost, une cinquantaine de personnes travaillent ici ?
Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes. Hier, c'était plus. Demain, ça sera peut-être moins.
C'est mouvant.
Ça aussi, c'est mouvant.
Bon, dans ce lieu hybride et voilà. Polyvalent.
Exactement, tout à fait.
Les équipes le sont aussi. Ce qui ne bouge pas, d'une certaine façon, c'est aussi les œuvres. Il y a les maquettes, on va aller voir, vous allez nous emmener, mais il y a des œuvres, des créations, notamment les vôtres, qui sont posées là. Et vu le poids de ces œuvres, je pense à la lampe qui est au-dessus de nous, qu'on décrira tout à l'heure, bien entendu, mais celles-là, elles ne bougent pas et elles ne sont pas sur roulette. Mais bon, laissons le suspense. Vous travaillez donc avec ces 50 personnes, Gaëlle Loriot-Prévost. Vous travaillez aussi en binôme avec Dominique Perrault. Comment fonctionne cette diade ou ce duo? Je ne sais pas, à quel moment vous intervenez sur un projet, sachant que lui, il fait l'enveloppe extérieure et que vous pensez l'intérieur, c'est-à-dire en gros, lui fait l'architecture et vous l'aménagement. Je ne sais pas si avec mes mots, ça vous convient comme ça.
C'est évidemment toujours un peu plus complexe, parce que moi, je dis que je fais des intérieurs d'architecture. Donc évidemment, il y a une complicité qui se fait peut-être beaucoup plus en amont, si vous voulez. On a aussi l'habitude de dire, c'est peut-être un petit clin d'œil, que moi je suis la directrice artistique et lui est mon directeur artistique. Donc si vous voulez, c'est une complicité à deux sens. Et le fait de travailler, de se connaître depuis longtemps, ça fait que même au téléphone, quand on parle d'un gris, on parle du même gris. Donc c'est assez facile de travailler, d'ajuster, etc. Moi, je crois beaucoup à la notion d'architecte-auteur, de travail sur la grande échelle. Tout le monde ne sait pas le faire, et n'est pas capable d'avoir ses visions, etc. Moi, je sais que c'est pas mon métier, c'est pas ce que j'ai appris, mais lui, c'est son métier, c'est son travail. Et moi, à un moment donné, même si je suis en amont le processus, etc., je veux dire, c'est pas un relais qui est passé, mais quand même un petit peu. Et aussi, on a eu cette grande chance, et avec le projet de la Bibliothèque nationale de France, moi, c'est le projet qui m'a formé, cette grande commande publique, c'était extraordinaire. Hein. On peut dire que je sortais de l'école, hein. J'avais un an d'expérience, un an et demi, bon, c'est particulier. On a mis au point une espèce de méthode de travail, où le fait de travailler sur la lumière, sur l'éclairage artificiel, mais bon, la lumière, c'est aussi la lumière du jour, et de travailler un peu sur toutes les matières invisibles, comme l'acoustique aussi, qui est extrêmement importante. Vous êtes obligé de regarder partout, autant le programme, qu'est-ce qu'on fait dans les différents lieux, autant les matériaux qui ont été choisis, du moins ce qu'on appelle les nus en architecture, c'est-à-dire la manière dont les choses s'alignent, ou les choses s'organisent, etc. Et ça, ça oblige à regarder et ça oblige à poser des questions. Et du coup, il y a des allers-retours qui se font sur la qualité des matériaux, sur la manière dont ils sont installés, sur leur objectif aussi et comment on fait, etc. Et ça, petit à petit, cette manière de travailler a été éprouvée.
Est-ce que vous faites tous vos projets ensemble? En même temps que je vous pose la question, j'ai finalement déjà la réponse, mais les auditeurs ne l'ont pas. C'est que moi, je vois à votre doigt une bague que vous avez réalisé, Gaëlle Loriot-Prévost, parce que vous faites des projets à grande échelle et vous êtes aussi capable de faire des objets, des petits objets, des accessoires, des bijoux. Ça, il ne le fait pas, Dominique Perrault.
Non, ça, je le fais toute seule et avec beaucoup de plaisir. D'avoir cette chance de passer du très grand au tout petit, c'est pas donné, bon, c'est un cadeau. Donc,
Toujours avec une matière qui est la vôtre et dont on parlera dans le quatrième épisode, qui est la maille métallique. Parce qu'à votre doigt, il y a aussi de la maille métallique, et un peu partout dans cet espace extraordinaire de la rue Bouvier à Paris. Vous nous emmenez, on va peut-être aller visiter quelques endroits, parce qu'on n'aura pas le temps de visiter les 3500 m², mais vous avez repéré des endroits où nous emmener pour aller regarder, écouter, et je poserai des questions.
Parfait, on y va.
On a descendu quelques marches, on est donc dans l'entrée de la rue Bouvier, DPA Dominique Perrault Architecture nous accueille, on a passé le sas d'entrée, la première porte, Gaëlle Loriot-Prévost, on est déjà accueilli par des drôles d'objets, d'œuvres monumentales. Une lampe derrière moi déjà.
Une lampe, oui, alors on pourrait décrire ça comme un grand lustre ou une grande installation. C'est un prototype que nous avons récupéré, qui est un prototype d'un dispositif de lustre qui a été installé dans le hall de la Tour de Lyon que nous avons construite, qui a été inaugurée il y a 2 ans. Il faut imaginer que cet objet, en fait, habituellement, il est positionné dans un hall qui fait plutôt 6-7 mètres de haut. Nous, ici, nous avons une hauteur de 3 mètres 50, c'est déjà assez généreux pour un espace de travail. Et du coup, ce luminaire, il touche presque le sol. C'est un format XXL qui est tout d'un coup mis dans un endroit domestique. Et c'est un peu la particularité de mon travail, c'est que je travaille souvent dans des endroits qui ont des dimensions qui sont hors du commun, qui sont plus du domaine public, qui reviennent dans le domaine domestique. C'est particulier et ça prend du temps. Que ces objets industriels, que l'ensemble de ces dispositifs viennent dans le monde de la maison, de la domesticité, qu'ils soient plus connus ou reconnus d'un certain public ou d'un grand public, ça prend plus de temps. Comme les mailles métalliques qui sont derrière vous, donc qui sont issues du travail que l'on a initié avec la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, ces mailles métalliques sont aussi utilisé par beaucoup d'autres architectes, et c'est assez formidable. C'est une maille métallique en inox, qu'on appelle spiralée. C'est une spire qui est faite en fil continu, et après, chaque spire est accrochée l'une à l'autre par ce qu'on appelle une tringle horizontale. Donc ça permet de faire des grands rideaux, j'allais dire presque à l'infini.
Parce que là, ce sont des grands rideaux, c'est des grands panneaux coulissants.
Ce sont des grands panneaux coulissants qui permettent de faire une séparation sensible mais qui brouille la vue, mais c'est pas une séparation opaque, c'est un mur qui n'est pas un mur, si vous voulez, c'est un rideau.
Au sol, Gaëlle Loriot-Prévost, encore de la maille métallique différente, mais là ce sont des tapis que vous déroulez.
Oui, ce sont des tapis que nous appelons tatami, parce que là c'est une maille qui est beaucoup plus serrée, beaucoup plus fine. Ce qu'on essaye de faire comprendre et ce qu'on veut dire, c'est que le métal n'est pas froid. Au contraire, c'est une matière, si vous marchiez pieds nus sur cet objet, vous vous rendez compte que c'est très doux, c'est très agréable. Et surtout, le métal a une capacité, c'est ce qu'on voit un peu aussi ici, c'est qu'il attrape tous les reflets. Et ça, c'est une grande qualité du métal.
Un dernier objet devant nous, un objet qui, là encore, signe votre univers. On entre dans l'univers de DPA, Dominique Perrault Architecture, avec vous, Gaëlle Loriot-Prévost. C'est un fauteuil, un drôle de fauteuil noir.
Oui, c'est un fauteuil qui est composé de plusieurs coussins, assemblés les uns aux autres, à l'aide d'un filet qui les enveloppe et qui fait qu'ils ne deviennent qu'un. Et l'objectif de ce fauteuil était qu'on puisse attraper ce filet, qui est comme une maille en fin de compte, et qu'on tire et qu'on déplace l'objet en tirant sur la maille. Donc on déplace l'ensemble. Donc si vous voulez, à chaque fois, c'est amusant. Il y a un côté aussi ludique, ce fauteuil.
Bon, alors ça, c'est l'entrée. Mais après, on va pas faire les 3500 m², mais quelques mètres carrés quand même. On vous suit, parce que je ne sais pas où vous voulez vous nous emmener. On a fait quelques pas. Sur quoi? Sur du béton? C'est du béton au sol? C'est quoi?
Oui, c'est du béton.
Partout, c'est du béton, sauf quand c'est de la maille.
C'est vrai.
Bon. Donc, on se retrouve au fond de ce rez-de-chaussée, devant des grands panneaux photographiques, et il me semble reconnaître le chantier de la gare de Villejuif, Gustave Roussy, que vous avez réalisé pour le Grand Paris Express.
Oui, nous sommes devant ces grands panneaux lumineux qui montrent différentes phases du chantier et qui montrent aussi des grands dessins qui sont ce qu'on appelle des grandes coupes perspectives pour faire comprendre la dimension et le fonctionnement du projet. Cette gare a été inaugurée en 2024. On est à 50 mètres de profondeur. Ce n'est pas un choix de l'architecte, c'est parce que le métro roule à une certaine altitude et cette gare a la particularité d'être habillée totalement de métal réfléchissant, ce qu'on appelle, nous, du métal, dans notre jargon architectural, du métal recuit-brillant. On a de la maille métallique qui permet aussi, chose très importante, de traiter l'acoustique dans ces espaces publics, d'amener aussi la lumière. La lumière glisse le long de ces grandes tentures métalliques verticales. La lumière descend donc jusqu'au quai, jusqu'au plus profond de la gare. Et travailler sur cette échelle de bâtiment, là, on travaille du moins avec la même attention sur la qualité des détails, la qualité de l'éclairage. Ça fait partie de ce travail d'intérieur d'architecture, même s'il est à l'air libre. Donc, est-ce toujours un intérieur ?
Si je tourne le regard vers l'autre extrémité de cet espace, je vois au plafond pendre une sorte de luminaire doré. Donc, ça signe le pavillon du four du château de Versailles, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Le pavillon du four, en fait, c'est l'entrée des visiteurs individuels au château de Versailles. C'est un concours qui a été gagné et qui a été livré en 2016, inauguré par le président François Hollande. Et l'idée dans ce projet était que le visiteur, dès qu'il arrive dans le pavillon du four, se dise « je suis au château de Versailles ». Je ne suis pas dans l'accueil du château de Versailles, mais je suis au château de Versailles. C'est fondamentalement différent parce que l'idée a donc été de prendre tous les codes de Versailles, les décors, toutes les frises, tout ce qui fait dans notre imaginaire que Versailles est Versailles. Après, quand on le visite, on voit que c'est Versailles. Et donc, c'est un Versailles qui est tout en métal. On a installé un parquet Versailles en métal, on a installé des lustres qui sont comme des grandes hallebardes qui vous accompagnent quand vous rentrez dans ce grand hall, qui sont des lustres qui sont composés aussi d'éléments industriels qui ont été coiffés ou ébouriffés par des ailes en métal doré pour marquer et pour être dans la symbolique de Versailles. Mais ces lustres, comme si vous les regardez, il y a quand même un vocabulaire très industriel, parce que là aussi, c'est un éclairage industriel qui a été customisé, transformé, et auquel toutes ces additions d'ailes métalliques le fait basculer dans le monde culturel, dans un monde d'intérieur d'architecture.
Alors ça, c'est pour l'espace du rez-de-chaussée. On en a vu que tout petit espace, mais ensuite on va monter dans les étages où on a des espaces de travail, les maquettes, les prototypes. Allez, allons-y. Voilà, on a grimpé 4 à 4 les escaliers, on est encore un peu essoufflé. En fait, vous vous êtes posé, Gaëlle Loriot-Prévost, devant une œuvre chiffonnée qui me laisse pantoise. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est, ça.
Nous sommes devant une malle de maille métallique. Cette maille métallique date de 2002 parce que nous avons eu la chance d'être accueillis en 2002 par Anne de Villepoix dans sa galerie pour fêter les 10 ans de notre rencontre avec la maille métallique, avec notre partenaire de toujours qui est GKD, qui est une entreprise allemande qui nous a permis de développer beaucoup de mailles métalliques, j'allais dire presque toutes les mailles métalliques que nous avons utilisées. Et c'est devenu un vrai partenaire, parce qu'évidemment, quand vous dessinez des mailles, il faut faire des prototypes, il faut tester, il faut regarder, parce que la maille, c'est formidable, mais en même temps, c'est un objet qu'il faut absolument domestiquer, qui n'est pas aussi facile que ça à travailler.
Nous nous trouvons devant un très long couloir. Sur notre droite sont disposées des tables recouvertes de tubes Alors le tube, c'est une autre de vos créations. Bien sûr, on en parlera, mais on garde tout ça en tête. Gaëlle Loriot-Prévost, pour nos conversations ultérieures. Je vous laisse nous présenter ces tubes qui sont, on dirait presque un cimetière de tubes de lumière.
Cimetière, c'est triste. Non, ce n'est pas un cimetière. Au contraire, ils ont l'air comme ça un peu installés au hasard, mais au contraire, ce sont des tubes qui sont très vivants parce que on travaille avec, on les choisit, on les manipule, on les transforme, etc. C'est tout sauf un cimetière. C'est vraiment, j'allais dire, une table de travail particulière, mais une table de travail.
Approchons-nous de cette table de travail recouverte de toutes sortes de tubes. Alors, vous les prenez, vous les regardez, vous dites celui-là peut-être, celui-là non, vous les reposez, vous dites matière vivante. Donc, qu'est-ce que vous faites avec eux?
Donc, ces tubes, initialement, c'était des tubes industriels. C'est-à-dire qu'on voyait dans les tunnels, dans les usines, sur les plateformes pétrolières, etc. Moi, ces objets industriels sont toujours des objets qui sont particulièrement bien dessinés, qui sont assez économes dans les moyens qu'ils ont, qui sont robustes, qui s'entretiennent facilement. Et ça, c'est une grande qualité quand vous travaillez sur des grands bâtiments publics. Et donc, moi, j'ai pris ces objets du monde industriel que j'ai transformés, que j'ai customisés en additionnant de la maille métallique à l'intérieur pour diffuser la lumière de façon spécifique, en dessinant des grilles de défilement pour que on puisse les regarder sans être ébloui, en changeant les couleurs pour qu'ils puissent s'harmoniser avec les lieux créés, un certain nombre de dispositifs d'accroche, la manière dont le câble électrique va descendre pour qu'il puisse se transformer en installation en lustre, la manière dont ils vont être organisés sur un plafond pour qu'ils puissent habiller une pièce. Donc ce sont des objets qui sont en fait capable de faire beaucoup, beaucoup de choses, alors qu'au départ, c'était des objets qu'on mettait de façon uniquement utilitaire. Alors là, ils sont utiles, mais un peu plus que ça.
Devant nous, ce qui est important, c'est de dire aussi que de l'autre côté des vitres, dans la cour, se trouvent des arbres, des grands pins. On n'a pas beaucoup de pins à Paris. Vous avez planté ces arbres?
Oui, nous avons planté ces arbres. J'allais dire, ce sont les petits frères, les cousins ou les neveux des grands pins du jardin de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont des pins sylvestres qui ont donc été plantés en 2006. Et ils vont très bien et nous sommes très contents de les avoir auprès de nous.
On va donc monter d'un étage pour essayer d'aller voir leur cime. On vous suit. L'étage des maquettes, on peut pas se tromper. On a changé d'acoustique, je l'entends même en parlant. Voilà, on est vraiment tout en haut. Effectivement, on voit le sommet des grands pins. Gaëlle Loriot-Prévost, j'ose plus marcher parce que au sol sont disposées des grandes feuilles et des maquettes architecturales, en fait.
C'est mon étage préféré. Toutes ces maquettes de différentes échelles, du plus petit objet au plus grand objet, c'est assez contradictoire parce que les grands projets d'urbanisme ont des petites maquettes et par contre les objets ont plutôt de grosses maquettes. Donc il y a une espèce de contradiction entre l'échelle du projet et l'échelle de la maquette. Ça montre bien aussi que dans la manière de travailler, la question d'échelle est absolument importante. Et il y a des maquettes d'intérieur d'architecture, des maquettes de concours. Là, vous voyez, sommes à Séoul. Donc, c'est un grand plan d'urbanisme pour positionner ces deux grandes tours, qui sont deux grandes tours qui font 280 mètres de haut. Bon, vous voyez l'échelle de la maquette, qui est vraiment toute petite. Ça, c'est une maquette qui est à l'échelle 1 millième. C'est 1 millimètre qui fait 1 mètre. Donc, c'est tout petit, tout petit. Et toutes ces maquettes ont la particularité d'être faites in-house, quoi. Elles sont en carton découpé, elles sont en papier, elles sont en carton bois, en plexiglas. Elles donnent à voir les projets. Parce qu'il y a une chose qui est absolument importante à comprendre, c'est que faire une maquette, c'est un projet. Il faut réfléchir quand on fait une maquette pour que la maquette donne à voir le vrai projet. Il faut vraiment faire passer l'idée du projet. C'est pas une photocopie réduite. C'est beaucoup plus complexe que ça. On travaille la maquette comme on travaille un projet. Et la maquette a cette force, on ne triche pas avec une maquette. par rapport à une image 3D où on se dit, bah, tiens, on recule un peu, on va faire un grand angle, etc. Quand vous êtes autour d'une maquette, c'est vous qui regardez avec vos yeux, et c'est votre imaginaire, c'est votre imagination. Donc vous avez un dialogue avec la maquette qui est beaucoup plus fort que quand vous êtes face à une image où vous êtes un peu plus statique et on vous donne à voir une version d'image, alors que la maquette, vous vous tournez autour, vous regardez, vous pouvez poser des questions qui sont beaucoup plus, j'allais dire, intimes par rapport à votre compréhension du projet qu'une image qui est beaucoup plus, j'allais dire, plate.
On va redescendre pour aller s'installer pour la suite de nos entretiens à Wanu. Sur le chemin, vous allez nous dire où est-ce qu'on va s'installer avec tout ça.
Là, nous allons dans un bureau, dans une pièce particulière, qui est une pièce qu'on appelle le bureau de Dominique Perrault. On dit que c'est son bureau, mais c'est un bureau tout à fait nomade, un bureau dans lequel tout le monde presque peut s'installer pour travailler, pour recevoir ses invités pour des réunions particulières. Et c'est un lieu aussi, au vu de sa forme architecturale, où il y a une grande hauteur, qui permet l'installation de prototypes.
Le prototype principal que vous allez nous montrer, et en fait on tombe dessus dès qu'on entre dans la pièce, c'est une immense lampe en métal qui a une forme d'oiseau avec des ailes déployées, et c'est pas pour rien que vous l'avez appelée l'albatros.
Oui, c'est une très grande lampe. C'est une lampe qui fait 6 mètres d'envergure, donc c'est une taille remarquable. C'est une lampe qui a été dessinée pour être installé dans le hall des tours qui s'appellent City Light, qui sont les tours du Pont de Sèvres à Boulogne, et qui forment lustre. Il y en a 14 qui sont installés les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un éclairage indirect. C'est-à-dire ce sont des lampes qui éclairent le plafond, et du coup la lumière redescend de façon indirecte dans le hall. C'est une chose qui est très importante parce que tous ces lustres, tous ces grands objets, ils apportent un décor parce qu'ils ont quand même un pouvoir décoratif, mais aussi ils sont totalement utilitaires. Ils doivent apporter la lumière suffisamment et en nombre de luxe dans notre jargon d'architecte nécessaire pour répondre aux exigences des cahiers des charges qui nous sont donnés. Ces grands lustres qui s'entrechoquent aussi sont en métal, toujours ce métal recubriant, en inox recubriant, qui joue avec la lumière, qui amène des reflets. La lumière, de temps en temps, elle rebondit d'aile en aile, et c'est ça qui fait toute la qualité de ce dispositif qui amène une lumière particulière dans le hall, parce que dans ce hall aussi, le sol est en métal. Donc il y a tout un jeu de reflets qui se fait entre le sol et le plafond.
Et c'est dans cette pièce de travail où sont aussi disposées un certain nombre de tables recouvertes de chemises cartonnées, de papier, de livres, que nous allons nous installer sous la lumière de l'Albatros. On continue demain avec l'épisode 2. On remontera dans le temps, cette fois, pour retourner au tissage des origines et voir d'où vous venez, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Merci et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Gaëlle Loriot-Prévost, réalisation Anne Pérez-Franchini, prise de son Yvan Charby, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.